circonstances qui sont à l'origine de trois cultes célébrés dans votre paroisse autour du thème du pardon. Au début de cette année, alors que je cherchais à retrouver la source de la joie de Noël, j'ai été profondément touchée par la prophétie de Zacharie dans l'évangile de Luc au chapitre 1. À la naissance de son fils Jean-Baptiste, Zacharie annonce la venue de Jésus, celui qui permettra au peuple de servir Dieu, libéré de toute peur, en marchant sur un chemin de sanctification et de justice. Alors en janvier, j'ai célébré un premier culte sur la vocation humaine, servir Dieu librement et sans crainte. Puis j'ai enchaîné avec un culte sur le thème du service, vu comme une réponse reconnaissante au salut offert en Jésus-Christ, ce don immérité et gratuit que Dieu donne à l'humanité. J'ai poursuivi le 1er mars en abordant le thème du pardon, ce lâcher-prise de l'offense qui permet de retrouver sa liberté intérieure. Et le 15 mars, j'ai terminé le cycle en soulevant la question de la réconciliation, distincte du pardon et de la remise de dette. Des nuances que je vous invite à explorer avec moi ce matin. Il y a des mots que l'on prononce souvent dans l'Église, mais qui restent un peu flous dans notre cœur. De beaux mots qui touchent, tout en restant un peu lointains, dont on se débarrasse facilement, car ils nous dérangent un peu à l'intérieur. Et puis, si on ne s'en débarrasse pas, on est prompt à penser qu'ils sont pour les autres et non pour soi. En effet, combien de fois je me suis dit, cette prière qui monte en moi, elle est pour telle et telle, et non pour moi. Alors que le temps passant, cette même prière dessinait en moi un chemin nouveau. Et là, j'ai un exemple à vous donner, c'est la vocation. Puisque j'ai eu une vocation tardive, je me suis formée comme diacre plutôt tard. Et en fait, j'étais sûre que c'était mon mari qui était appelé. Aujourd'hui, je vais aborder deux mots et une expression qui sont en lien direct avec le texte biblique que vient de lire Suzanne. Le pardon, traduit aussi dans la demande du Notre Père par la remise de la dette et la réconciliation. Cette notion et ces mots se ressemblent, mais ils ne disent pas exactement la même chose. Le pardon, c'est d'abord quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. C'est ce moment où l'on décide de ne plus laisser la blessure diriger notre cœur. On renonce à la vengeance, on refuse de garder la faute de l'autre comme une arme dans sa mémoire. Pardonner, ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était juste ou que ce n'était pas si grave. Absolument pas. Pardonner, c'est décider que la faute ne sera plus la dernière parole. C'est souhaiter ne pas rester enfermé dans l'offense. La remise de la dette, elle, ressemble davantage à un geste. Imaginez quelqu'un qui vous doit quelque chose, de l'argent, une réparation, peut-être même des excuses. La dette existe, elle est bien réelle, mais un jour, vous choisissez de dire « je n'exige plus ce paiement ». La dette est effacée, le compte remis à zéro. En résumé, j'efface l'ardoise. Quant à la réconciliation, elle n'est pas seulement ce qui se passe en nous, ni seulement ce que nous annulons. C'est quelque chose qui se passe entre deux personnes. C'est la relation qui est réparée. Deux chemins qui s'étaient éloignés commencent à se rapprocher de nouveau. Dans la lettre de Paul, nous avons entendu quelque chose d'étonnant. Dieu ne s'est pas contenté de pardonner le monde, il ne s'est pas seulement contenté d'effacer une dette. Paul dit que par le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Autrement dit, Dieu ne voulait pas simplement boucler ou fermer un dossier. Il voulait rouvrir une relation. Et Paul va encore plus loin. Il dit que nous sommes maintenant ambassadeurs de cette réconciliation, comme si Dieu continuait à parler au monde à travers nous. Quand on entend cela, on pense souvent à de grandes choses, des peuples qui se pardonnent, des nations qui font la paix. Pourtant, Jésus, dans l'Évangile, ramène tout cela à un endroit beaucoup plus proche, la relation entre deux personnes. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. Et tout le monde est probablement d'accord, tuer quelqu'un c'est grave, il ne faut pas le faire. Mais Jésus fait quelque chose d'inattendu, il remonte en amont du meurtre. Il regarde ce qui se passe dans le cœur humain, bien avant que les mains n'agissent. Il dit, celui qui se met en colère contre son frère ou sa sœur. Il s'arrête tout d'abord sur l'émotion qu'est la colère. Il ne parle pas du geste, pas de la violence visible. Juste de cette chaleur intérieure qui monte quand quelqu'un nous blesse, nous contredit, nous humilie ou nous déçoit. Jésus dit, la rupture, elle commence là déjà. Parce que la colère a une étrange capacité, elle transforme l'autre. Peu à peu, on ne le voit plus comme une personne, mais comme un problème, un adversaire, parfois même comme quelqu'un qu'on finit par mépriser. Et alors les mots changent, on ne dit plus son nom, on dit l'imbécile, l'idiot, le bon à rien, et la distance grandit encore. C'est pour cela que Jésus parle de la réconciliation comme d'une manière très concrète. En imaginant quelqu'un qui vient au temple pour offrir un sacrifice à Dieu, le geste religieux est prêt. L'offrande est dans les mains, tout semble en ordre. Et soudain, au moment d'arriver devant l'autel, la mémoire se réveille, un souvenir remonte. Ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. Remarquez bien, Jésus ne dit pas « vous avez raison ou tort ». Il dit simplement que la relation est blessée. C'est alors qu'il donne une consigne surprenante. « Laisse ton offrande et va d'abord te réconcilier. » Comme si la relation avec Dieu ne pouvait pas être séparée de la relation avec les autres. Comme si Dieu disait « ce que je désire, ce n'est pas seulement ton geste religieux. Ce que je désire, c'est la paix entre vous. » La réconciliation devient alors quelque chose d'urgent. Jésus dit plus loin, « Dépêche-toi de te mettre d'accord avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. » Tant que le chemin continue, il y a encore un espace pour se rapprocher. Donc les cœurs ne sont pas totalement fermés, quelque chose peut encore être réparé. Maintenant, on comprend peut-être mieux la différence entre nos trois mots et locutions du début de ce message. On peut pardonner intérieurement sans que l'autre ne le sache. On peut remettre une dette, décider de ne plus réclamer ce qui nous est dû, de ne plus présenter l'ardoise. Mais la réconciliation, elle, demande de faire un pas vers l'autre. Parfois un pas fragile, parfois un pas hésitant, mais un pas en quête de paix. Et c'est là que les paroles de Paul prennent tout leur sens. Si Dieu a choisi la réconciliation avec le monde, alors les chrétiens deviennent les porteurs de cette même dynamique. Pas des juges, pas des comptables qui dénombreraient les fautes, des ambassadeurs de la paix. Cela ne veut pas dire que tout devient simple et facile, même sous la conduite du Seigneur. La réconciliation ne supprime pas les blessures du passé. Elle ne nie pas les torts. Elle ne force pas les cœurs non plus. Mais elle ouvre une porte. Une porte où quelqu'un ose dire « Je ne veux pas que la colère soit la dernière chose entre nous. » Peut-être que la réconciliation commence toujours comme cela, pas comme une grande déclaration, mais comme un désir profond, impératif de paix. Un désir assez fort pour faire le premier pas. Et nous savons toutes et tous que le premier pas, c'est toujours à l'autre de le faire. Mais peut-être que chaque fois que quelqu'un choisit ce chemin, même timidement, quelque chose de ce que Paul annonçait continue de se réaliser dans ce monde. Dieu, patiemment, réconcilie la création avec lui et apprend à ses enfants à faire la paix les uns avec les autres. Tout un chemin si difficile à entamer. Amen.